poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcelle. Une émission entièrement consacrée aujourd'hui au numéro spécial été 2026 du journal Réforme sur le thème « Un été avec des écrivains ». Il y a 15 jours, dans le cadre de cette émission, j'ai présenté le cahier spécial 2026 de la presse régionale protestante. Aujourd'hui, c'est un autre cahier spécial été 2026 que je voudrais présenter. Il s'agit du numéro spécial du journal Réforme intitulé « Un été avec des écrivains », numéro 4147 du 23 juillet dernier, qui, en plus de ses 32 pages habituelles, comporte un cahier central de jeux pour grands et petits. Dans son éditorial intitulé « Au fondement du protestantisme », Antoine Nuis écrit ceci. Les protestants savent bien que s'ils sont les enfants de Luther, c'est essentiellement grâce à Gutenberg. D'autres réformateurs ont partagé les idées qui étaient proches de celles de Luther avant lui. On peut citer Pierre Valdo au XIIe siècle à Lyon, John Wycliffe au XIVe siècle en Angleterre ou Jean Hus au XVe siècle en Bohême. Mais leur protestation est restée limitée dans le temps et dans l'espace. Lorsque les autorités romaines ont essayé de museler Luther, il était trop tard, car sa pensée avait été diffusée par les livres. L'historien Jean Delumeau a montré qu'entre 1517 et 1520, 300 000 livres de Luther avaient été imprimés. S'il est possible de faire taire une personne, il est beaucoup plus difficile d'arrêter un livre quand il a été imprimé et distribué. Dans son histoire, le protestantisme s'est construit sur l'étude et la lecture de la Bible selon le principe d'interprétation qui consiste à lire la parole de Dieu pour relire sa vie et relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Le rapport au livre relève de son ADN. Lorsque Luther a opposé sa conscience aux autorités de son époque qui lui ordonnaient de se rétracter, il précisait que sa conscience était éclairée par la parole de Dieu. Sans cet enracinement, notre conscience risque de n'être que le fruit de nos déterminismes ou le reflet de la pensée majoritaire qui suit les vents dominants. Un père du désert faisait la comparaison suivante. La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure, mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur, mais l'humain qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Il faut du temps, beaucoup de temps, de la persévérance et de la fidélité pour que l'Écriture vienne transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et si nous profitions de l'été pour retrouver ce goût de la lecture des livres et du livre. C'est donc l'éditorial de Antoine Nuis. Dans un chapitre introductif à ce numéro spécial, Frédéric Casadesus estime que, depuis quelques années, le roman paraît changer de visage. Des écrivains, plutôt que d'inventer de toutes pièces une histoire, une situation, racontent leur vie ou celle d'une personnalité bien connue. Admettons-le, depuis Stendhal, une bascule s'est opérée. Les écrivains d'autrefois mettaient de leur vie dans les romans, ceux d'aujourd'hui mettent du roman dans leur vie. Mais l'imagination garde la main. Sortilège. Après cette auscultation de la fiction et du réel qui ouvre ce numéro d'été, écrit Stéphane Lutz-Sorg, rédacteur en chef de Réforme, les pages qui suivent donnent la parole à cinq écrivains face à l'actualité récente. Protestants ou en proximité intellectuelle avec le protestantisme, ils réagissent en femmes et en hommes d'écriture à des débats prégnants de ces derniers mois. Marc Duguin, romancier et cinéaste face à la politique, en page 4. Camille Laurence, membre du jury Goncourt face à l'affaire Pellicot, en page 5. Marion Muller-Collard, théologienne et directrice des éditions Labor et Fides, face au débat sur l'aide à mourir, la page 6. Fabrice Humbert, romancier prolixe, face aux guerres et à l'enjeu climatique, à la page 8. Clara Dupont-Mono, directrice littéraire de la non-fiction chez Buchet-Chastel, face aux réseaux sociaux, à la page 9. L'écriture, on l'a compris, est au cœur de ce numéro spécial, avec un reportage dans un atelier d'écriture de l'Armée du Salut qui permet à ses participants de s'y reconstruire, en page 10. Avec le musée protestant qui met à l'honneur la figure si libre de Madame de Staël, en page 14, et nos invités d'Église verte qui suggèrent des idées de lecture, en page 15. Que vaudrait un numéro célébrant l'écriture sans qu'il y soit question de la Bible ? Antoine Nuis rend hommage à un critique littéraire canadien qui aimait à considérer la Bible comme un objet littéraire ayant une progression de son début à sa fin, en page 13. Et un cahier de jeu invite à se confronter à la Bible en jouant avec mots croisés, quiz et jeux pour les enfants dans le cahier central. Manière pour Réforme de proclamer que l'écriture, l'écrit et la lecture sont irremplaçables et se partagent comme dans une grande boîte à livres. Dans son article sur Marc Duguin, Frédéric Casadesus écrit ceci. Marc Duguin crée des personnages, des situations, ne prétend pas dire une vérité absolue, mais souhaite offrir une alternative aux essais traditionnels. La part d'invention compte beaucoup dans son œuvre. Comme le comédien doit se glisser dans la peau d'un personnage pour l'interpréter, l'écrivain doit comprendre la mentalité de son héros pour en reproduire les attitudes, expliquer les décisions et les choix. Cela suppose qu'il pratique l'empathie, non par complaisance mais par devoir. Dans ses propos recueillis par Laure Salamon, Camille Laurence, membre de l'Académie Goncourt et autrice de « Ta promesse », revenant sur l'affaire Pellicot, se dit très choquée par l'absence d'empathie des hommes sur le banc des accusés. Seuls quelques-uns sont excusés, mais la plupart n'ont témoigné d'aucun remords envers Gisèle Pellicot. Contrairement à la compassion qui consiste à souffrir avec l'autre, l'empathie est l'étape précédente. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il éprouve. J'ai l'impression que cette capacité humaine qui consiste à admettre que l'autre est notre semblable est en perte de vitesse. Pourtant, c'est la base de la morale, ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Dans le monde du travail, l'absence d'empathie se fait aussi sentir. Des décisions sont prises sans tenir compte des personnes qui en sont le plus affectées, qui deviennent de simples pions, des dossiers déshumanisés. À propos de la question de l'aide à mourir, la théologienne et éditrice Marion Muller-Collard, dans un livre intitulé « L'ordre des choses », raconte ce que l'AVC massif de son père a changé en elle et sa façon de penser la fin de vie. Dans ses propos recueillis par Alice Papin, répondant à la question « Pourquoi avez-vous choisi de mettre par écrit ce que vous viviez avec votre père ?» elle dit ceci « Je ne choisis pas grand-chose, justement. Il y a des livres que je prépare pour lesquels je prends des notes qui relèvent davantage de l'essai et dans lesquels je veux dire quelque chose. Mais ici, il s'agit d'un texte littéraire. » L'écriture provoque un autre rapport au monde. C'est quelque chose de viscéral qui s'impose à vous, qui ne vous laisse pas tranquille. Je ne choisis pas d'écrire, je ne choisis pas davantage le sujet. C'est un texte dans lequel je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. C'est avant tout de la langue. J'entends ici la poésie dans son sens le plus profond. Non pas quelque chose qui répond à des règles de métrique ou de rime, mais une manière d'être au monde, dans un rapport presque halluciné, hypersensible, avec toute une part d'imaginaire. Le thème de la guerre et de l'actualité imprègne l'ensemble de l'œuvre de Fabrice Humbert. Auteur de « De l'autre côté de la vie », écrivain et professeur de français en classe préparatoire, dans ses propos recueillis par Laure Salamon, il dit ceci « Mais ma matrice intellectuelle, morale, sensible, vient des années 1930, de la montée des extrêmes et du totalitarisme. Tout ce que j'écris est de près ou de loin lié à cette origine de la Seconde Guerre mondiale, même lorsque la trame narrative paraît sans rapport. Parce qu'il s'agit de la question existentielle centrale posée à l'homme, la cruauté, le pouvoir, le sacrifice, la générosité. L'histoire de ma famille est ancrée dans la guerre. La famille juive du côté de mon père qui a vécu la déportation, je l'ai racontée dans L'origine de la violence en 2009. La famille protestante du côté de ma mère, mon grand-oncle a fondé avec la famille Jospin une utopie protestante, la fraternité à Clamart, dans un réflexe humaniste après la Seconde Guerre mondiale. Les réseaux sociaux sont un désastre pour notre intellect. Tel est le titre de l'article de Laure Salamon à propos de l'écrivaine et éditrice Clara Dupont-Monod et de son dernier livre intitulé « La confrontation », une fable qui met en scène un preneur d'otages se revendiquant d'Elon Musk et un négociateur du GIGN. Elle s'inquiète de notre passivité face à un monde prisonnier des écrans, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. À la question « Que retenez-vous de l'actualité récente ?» Clara Dupont-Monod répond « La maltraitance administrative qui frappe les personnes handicapées et leurs familles. » Mon précédent roman s'adaptait, abordait le sujet. Je reste effaré par le décalage entre les exigences administratives et la réalité d'une situation. Les dossiers à remplir, les délais d'attente, les absurdités bureaucratiques, comme recevoir sa carte de stationnement déjà périmée ou devoir prouver tous les 3 ans que son enfant est toujours handicapé. L'État est pourtant censé épauler ses familles. Elles endurent en silence. Le sujet concerne 20% de la population française. C'est le système D pour tout le monde. C'est une autre France que personne n'entend. Dans un reportage intitulé « Une escale où les mots réparent »,« Écrire pour se reconstruire », Alice Papin va à la rencontre de Lionel Massonneau, ancien détenu, il a découvert l'écriture en prison. Aujourd'hui, il anime des ateliers d'écriture à l'Escale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'Armée du Salut, à Florange, en Moselle, pour transmettre ce qui l'a aidé à se reconstruire. C'est en prison qu'il découvre l'écriture, grâce à un atelier. Comme j'étais placé en isolement, je n'avais droit ni à la promenade, ni au parloir, à rien du tout. Je voulais sortir de la cellule et j'étais prêt, pour ça, à n'importe quoi. Alors, je suis allé à l'atelier d'écriture, qui était aussi un moyen de discuter avec des filles, confie-t-il. Au début, il croit que c'est comme à l'école, puis il découvre qu'on peut y rire, se prend au jeu des mots et se rend compte que l'écriture, elle aussi, libère, permet de se découvrir et soigne les blessures, et valorise aussi. J'ai gagné un concours d'écriture avec un texte sur ma fille, sur le souvenir du pot à pot quand elle était bébé, se souvient-il. Il garde d'ailleurs toujours précieusement avec lui le cahier sur lequel il a couché ses premiers mots en prison. À sa sortie le 3 septembre 2025, il intègre l'Escale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'Armée du Salut à Florange, une ville connue pour son usine ArcelorMittal, symbole du déclin de la sidérurgie en France. C'est là qu'il a l'idée de proposer des ateliers d'écriture au sein du centre, parce que, dit-il, ça lui a fait du bien, et qu'il veut désormais devenir père aidant, une personne dont le métier est d'accompagner d'autres personnes au vécu similaire. Dans une enquête intitulée « Les boîtes à livres ou le succès de la lecture à portée de main », Alice Papin indique qu'en 10 ans, le nombre de boîtes à livres a été multiplié par 5 en France, qui en compte aujourd'hui plus de 10 000. Entre plaisir de la découverte et esprit du don, enquête sur ce qui pousse les Français à s'y arrêter. Aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique, l'économie circulaire semble avoir le vent en poupe, comme en témoignent les ressourceries et recycleries qui se multiplient au même rythme que les boîtes à livres. Selon une étude menée en 2024 par Claude Poissonneau, enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de recherche sur les médiations, sur les usages et usagers des boîtes à livres en France, cette volonté de circulation semble bien présente. Les 3/4 des usagers affirment utiliser les boîtes à la fois pour trouver et déposer des livres. Seuls 17% ne viennent que pour trouver des livres et 9% uniquement pour en déposer. C'est le cas de Vincent, éditeur de bande dessinée et passionné de boîtes à livres, qui en a même conçu 2, une dans la cage d'escalier de l'immeuble parisien où il vivait alors en colocation, et une autre dans une petite station de ski savoyarde qu'il apprécie. « J'ai beaucoup de mal à me débarrasser des livres que j'accumule pourtant très vite », confie-t-il. « Je ne vais pas jeter un livre, même très abîmé, alors je trouve les moyens de les faire tourner. La boîte à livres, pour moi, c'est parfait », avant d'ajouter en rigolant « Une solution parfaite en théorie parce qu'en fait, j'en ramène souvent plus que je n'en dépose. J'ai une balance déficitaire, je ne peux pas m'en empêcher, c'est dès que je vais quelque part, je regarde s'il y a une boîte à livres dans les environs. » Après le cahier spécial « Jeux », Antoine Louis revient donc sur « Le Grand Code », un livre du professeur de littérature canadien Nostrom Fry, publié au Seuil en 1984. Il y a invité à prendre en considération la Bible, à la lire dans sa continuité du premier au dernier livre. Il y voit l'histoire des hommes en une succession d'effondrements suivis d'autant de relèvements. Cette grille de lecture semble éclairante face à la situation de notre monde qui menace de s'effondrer, estime Antoine Louis. Depuis quelques années, les collapsologues prédisent la fin de notre civilisation sous l'effet du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Bible en main, on ne peut pas dire que le monde ne s'effondrera pas, mais la Bible en main, on peut s'accrocher à l'espérance que cet effondrement sera suivi d'une nouvelle histoire. Ce spécial été de réforme se poursuit avec un article sur Madame de Sales, proposé par le comité éditorial du musée protestant. Germaine de Sales meurt en 1817, à 50 ans, après une attaque de paralysie. Elle laisse inachevées les considérations sur les principaux événements de la Révolution française, publiées en 1818. Par son œuvre, ses salons, ses voyages et ses exils, elle apparaît comme une femme de lettres moderne, européenne par ses origines, ses réseaux, ses lectures et sa conception de la liberté. Sur une page proposée par Église Verte intitulée « Pourquoi lire de la science-fiction quand on parle d'écologie ?» Lire de la science-fiction, c'est finalement accepter de déplacer son regard pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Elle ne remplace ni les rapports scientifiques ni la réflexion théologique, elle les complète. Là où les premiers décrivent le réel, les romans explorent le champ des possibles. Et c'est souvent dans cet espace de l'imaginaire que peuvent naître les transformations les plus profondes, écrit Alexis Guérit, secrétaire général d'Église Verte, qui suggère un livre de Ernest Kallenbach, Écotopia. D'autres responsables d'Église Verte suggèrent, par exemple, Dans la forêt, Les restes de l'Ancien Monde, de Jean Egland, et puis Le voyage d'Henri, Un ours qui sait ralentir, aux éditions Totem. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusée le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.